Autrerie sur la complémentarité agriculture-élevage à l'échelle d'un territoire et sur l'agroforesterie. Et puis de voir en quoi ça refonde ces orientations-là, la recherche dans le champ de l'agronomie. Département, c'est environnement agronomie, c'est pas l'agriculture qui est là. Oui. C'est la discipline de la science agronomie. Donc c'est ça qui me semble important actuellement. Donc quelques photos là que vous, sans doute vous connaissez, ça c'est l'évolution des rendements. C'était explosif durant les 50 dernières années, même si ça commence à se stabiliser. Très très rapidement, tout ça vous connaissez, c'est aussi c'est dû à des apports de fertilisants relativement élevés, même si ça baisse pour l'azote, pour le phosphore et la potassium, où ça baisse légèrement, mais c'est relativement stable quand même pour l'azote. Les pesticides en France, on a obtenu une réduction depuis les années 1990. Mais vous voyez que depuis les années 2000, c'est quasiment stable, malgré un effort considérable de R&D, ce qu'on appelle le plan éco-phyto. L'idée de réduire de 30% les objectifs pour 2018, ça a été l'échec. Donc on part sur un plan éco-phyto 2. Si on attend, je dirais pourquoi, à mon avis, il y a eu cet échec. Et c'est ça s'est accompagné quand même de deux choses très importantes. C'est la simplification des assolements. En l'espace de 30-40 ans, on est passé d'assolement, finalement, où il y avait... des successions de cultures où il y avait 4, 5, 6 cultures à des systèmes qui sont de monoculture ou biculture. À Toulouse où je travaille, c'est tournesol, blé, point, avec du sol nu. Et l'autre changement important aussi, c'est la spécialisation des régions. Vous avez vu, comme ça c'est les départements français, dans l'espace d'une vingtaine d'années, la plupart des départements, donc en marron, se sont spécialisés, je dirais, soit vers l'agriculture, en gros les grandes cultures, soit vers l'élevage, pour faire vite. Et ça, c'est important à savoir pour ce que je vais raconter pour la suite. Alors ça, tout ça, c'est un impact sur l'environnement. Pareil, je passe très très vite, parce que si vous le connaissez. Donc là, c'est autour de... sur l'azote. Simplement, ce que je veux signaler, c'est que pour certains des impacts dont on parle très peu, parce qu'on parle beaucoup des directives nitrates, patati patata, mais c'est que certains impacts, ben, c'est sur la santé humaine. Il n'y a pas que sur l'environnement, sol, il y a sur l'âme aussi. Autre chose, sur les gaz à effet de serre, l'agriculteur, au niveau là, c'est en France, c'est le deuxième contributeur après les transports. Donc on voit bien une amélioration en l'espace d'une vingtaine d'années, mais en tout cas, c'est pas au rythme qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs qui sont affichés. Pareil pour la qualité de l'eau, depuis 1995, vous voyez en bleu, c'est quand on compte, c'est les teneurs en eau de moins de 10 mg par litre. Il y a une amélioration, ça s'est stabilisé. Il y en a encore loin, il y a beaucoup de la partie, comment dire, non, ce que j'ai dit de bêtise, c'est la partie finalement qui est propre, si je peux dire, c'est réduite. Donc on est loin d'atteindre les objectifs, on est plutôt dans un mouvement contraire. Quelque chose qui me tient à cœur actuellement, c'est les acides gras. Les fameux oméga 6, oméga 3. Alors certes, mes statistiques s'arrêtent là, ici, en 2002, mais ce qu'on constate, c'est une augmentation de la teneur, en gros, un doublement de la teneur en oméga 6. Donc, ils sont des acides gras polyinsaturés indispensables à la santé. Il y a aussi les oméga 3 qui augmentent, mais le rapport, c'est ça qui est critique pour la santé, qui doit être de 4. On est passé de 10 à 12 en l'espace de 50 ans. Essentiellement lié au mode d'alimentation des animaux et l'utilisation de certaines huiles végétales dans les produits de l'agroalimentaire. Depuis, ça s'est un petit peu amélioré dans les 10 dernières années. Ça s'est stabilisé, voire amélioré. Et ça, on montre que, justement, depuis les années 95 jusqu'à 2010, c'est un impact sur bon nombre de maladies de civilisation. C'est pas la seule cause, bien sûr, mais c'est une des causes. Donc, pour avoir une vue d'ensemble, là, ce que je retirais d'une statistique assez récente au niveau européen, eh bien, sur les 10 dernières années, en gros, il y a des améliorations pour la pollution, les gaz à effet de serre, l'eau, la gestion des déchets. Mais ce qui se dégrade, c'est la qualité de l'air, l'eutrophisation, les pertes en termes de biodiversité d'espèces et d'habitats, et puis l'érosion du sol. Et ce qui est prévu pour le futur, c'est que les objectifs qui sont affichés par l'Europe en termes de santé du sol, donc d'érosion essentiellement, biologique du sol et biodiversité, ben, ne seront pas atteints. On le sait déjà. Donc, pour moi, en résumé, deux grands défis. Un, c'est sur le changement climatique. Vous connaissez aussi bien que moi, chacun pas. Et un autre aussi, là, c'est la sécurité alimentaire. J'ai trouvé ces statistiques intéressantes récemment. C'est entre 2000 et 2008, c'est pour l'Europe des 27. Ce qui est exprimé, c'est les importations virtuelles. C'est-à-dire quand on importe du soja, en gros, on importe des terres. Et quand on exporte du vin, en France notamment, on exporte des équivalents. Non. Ce qui m'a un petit peu intrigué, ben, c'est qu'entre 2000 et 2008, les exportations se sont réduites, avec cet indicateur, bien sûr, et les importations sont augmentées, et notamment pour deux choses, pour le soja, et puis les importations, ben, elles sont beaucoup aussi pour le bleu clair, je ne sais plus ce que c'est. Pour le... Donc finalement, c'est pareil, c'est en Europe, finalement, notre dépendance, sinon, c'est accrue. Donc, ben, le grand mot à la mode, c'est l'innovation. Développement durable. Mais le drame, c'est qu'actuellement, ça recouvre des choses tellement différentes que si on ne les précise pas, on s'enlise dans des débats sans fin. Donc, ce que je vais vous raconter maintenant, après cette courte introduction, j'espère, ben, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et ce qu'on a fait avec des collègues, et ça va être ça qui va être la beauté de mon exposé, que je vais détailler, c'est que si on part des années 50, c'est-à-dire des années statistiques jusqu'aux années 2010, ben, il y a différentes voies d'évolution de l'agriculture. Alors, tout le monde va parler d'agriculture durable, quelles que soient ses voies, tout le monde va parler d'agroécologie. Et donc, il faut rentrer vraiment dans le dur, plus dans le détail, pour savoir de quoi on parle vraiment. Et donc, pour nous, avec des collègues, on distingue ce qu'on appelle la weak ecologization. C'est une agriculture basée sur l'augmentation de l'efficience. Parce que je dis, ce n'est pas des choses péjoratives quand je parle de weak ou de faible, c'est des choses qui existent. Je ne parle pas de jugement de valeur. Et donc, je vais le détailler, et c'est le grand mot à la mode qu'on trouve au niveau européen, hein, c'est la bioéconomie. Je vais y revenir en détail. Il y a une voie un petit peu alternative qui est basée beaucoup sur les intrants organiques. Alors, ce n'est pas forcément l'agriculture biologique qui est basée uniquement sur les intrants organiques. Cette voie, elle tend, comment dire, on trouve bien sûr, c'est simplement, on remplace un intrant de synthèse par un intrant organique. Et c'est devenu un petit peu à la mode. Il faut savoir que des grands firmes comme Monsanto sont en train d'acheter des entreprises d'Europe du Nord qui ont des compétences pour produire ces intrants biologiques. Donc c'est là qu'il y a un marché d'avenir. Et puis, il y a une autre voie qui est basée sur les services écosystémiques, sur la diversité biologique. Et donc, que certains appellent les systèmes agroalimentaires locaux, l'éco-économie ou les agricultures écologiquement intensives. Et si on se... on se réfère à un certain nombre de thèmes couramment utilisés. Pour ce qui est en jaune, ici, on parlera d'agriculture technologique. Pour ce qui est ces voies un petit peu en vert, on parlera en France, en tout cas, des réseaux biocohérence ou des RAD, des réseaux d'agriculture durable, ou bien aussi de certaines formes d'agriculture de conservation, si on associe le no-travail du sol avec des couverts végétaux intermédiaires et des rotations longues. Tout ce que je viens de dire, c'était résumé déjà dès 1998. Par certains collègues, notamment qui sont à l'origine des concepts ESR, Efficiency, Substitution and Redesign. Donc je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail en disant voilà, l'agriculture conventionnelle, donc une agriculture qui est basée beaucoup sur l'énergie et les intrants de synthèse et des pratiques d'assurance. Quand les intrants sont pas chers, on en met beaucoup parce qu'on est sûr. Le propre de l'agriculture, c'est la variabilité. On est sûr de gommer la variabilité. Et donc, la première voie qui se dessine, c'est la voie basée sur l'efficience. Et donc, vraiment, le driver, c'est de produire plus de biens, mais surtout de limiter, tout en limitant ce qu'on appelle les disservices. C'est-à-dire les impacts négatifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Les gaz à effet de serre, les nitrates, patati patata. Et souvent, ça se fait sous la contrainte, notamment des réglementations européennes. C'est ça, le driver. Et donc, c'est une approche qui est basée sur un petit peu ce qu'on appelle le métabolisme du système. On vise à contrôler les flux d'énergie et d'intrants de synthèse en vue d'augmenter les outputs en réduisant les inputs, avec une variante, comme j'ai déjà décrit, sur la substitution. Et l'autre voie, c'est un petit peu, c'est les archétypes que je décris, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, le monde, c'est la voie où on va produire des biens, plus si possible que par le passé, à partir de services écosystémiques. Je vais y revenir, et les services écosystémiques qui sont principalement basés sur la promotion de ce qu'on appelle l'intégrité des écosystèmes. Alors qu'est-ce que c'est que l'intégrité des écosystèmes? Donc il y a un certain nombre de chercheurs, je sais des Allemands, j'en cite ici en bas de texte, L'idée, c'est de caractériser les besoins d'un système pour le stabiliser avec ses composantes biotiques. La recherche agronomique a beaucoup étudié la biotique, à savoir le sol comme un substrat dans lequel il y a des flux d'énergie, notamment avec la température, le rayonnement, et des flux de carbone, de phosphore et d'azote. Mais le biotique, que ce soit au niveau de la vie du sol ou au niveau des espaces aériens, a été considérablement, pour moi à l'INRA, a été très très peu présent jusqu'il y a peu d'années. Et l'idée, c'est que c'est basé sur les services, sur les systèmes, le concept de d'auto-organisation écologique, et que l'idée, c'est que en accroissant certaines formes de biodiversité, d'hétérogénéité, on a des systèmes qui s'auto-organisent et qui deviennent beaucoup plus stables, et c'est ça qui va permettre de réduire les intrants de synthèse. Et ça, bien sûr, on l'applique à des écosystèmes tels que à l'échelle de la parcelle, les plantes avec leur support, le sol, bien sûr. On peut l'appliquer aussi à l'échelle du paysage, où il y a certaines formes de biodiversité. Mais l'animal, elle peut être vue aussi, soit l'animal en entier, ou bien au niveau du remède, peut aussi être vu comme un écosystème. Et donc, la deuxième voie que je décris, développer l'intégrité de ces écosystèmes, qui sont aussi différents que l'animal, un petit écosystème sur une parcelle ou sur un paysage, ça vise justement à aggrader, au sens de l'inverse de dégrader, certaines fonctionnalités écologiques qui, par les interactions, les synergies qui vont se développer entre organismes, vont permettre d'inventer ces nouvelles formes d'agriculture qui existent, mais à l'état embryonnaire. J'ai ici, pris ici une vieille diapositive de Trine Quaker, qui est une chercheuse américaine, qui me semble assez intéressante parce qu'elle résume ce que je viens de dire en distinguant différentes logiques de gestion de l'azote. Il y a une première logique qui serait l'agriculture conventionnelle, c'est caricatural bien sûr ce que je vais dire, c'est en gros c'est la logique d'assurance, donc il y a un certain nombre de gaspillages. Et compte tenu finalement des réglementations, des aspects santé, on gère les déchets, c'est-à-dire on va traiter l'eau avant la consommation, donc à des coûts qui sont, je ne vais pas le répéter, on a dit des chiffres la semaine dernière, qui sont parfois exorbitants par rapport à l'unité d'azote, ça revient cher à l'unité d'azote. Mais aussi, il y a toute la politique européenne aussi pour créer des bandes tampons. Donc tout ça en soi, ce n'est pas condamnable, mais de toute façon, ce n'est pas une solution d'avenir. Il y a la voie suivante, qui était ma voie 1 dans mon schéma, c'est-à-dire c'est l'éco-efficience. Mais là, on ne cherche pas à coupler les cycles du carbone et de l'azote. Et en gros, si je résume de manière très triviale, c'est le bon produit, la bonne dose, au bon endroit, au bon moment. Donc derrière, il y a toute l'agriculture de précision. Et puis quand on va un petit peu plus loin, ici, on va utiliser des légumineuses, on va utiliser des rotations complexes, on va utiliser des couverts, donc on va jouer sur la biodiversité dans l'espace et dans le temps, et c'est ce qui permet de coupler les cycles du carbone et l'azote, on pourrait élargir au phosphore, on pourrait élargir à l'eau, et ce qui va permettre, donc à la fois, qui va permettre de réduire les émissions dans l'environnement. Et donc ça passe par un changement complet de paradigme, où là on gère l'azote inorganique, on le voit comme un pool finalement, 100 ans de résidence au niveau du sol, alors que là, dans la seconde voie, on augmente la biodiversité, vous voyez au travers ces relations sur lesquelles je vais revenir plus longuement, pour à la fois alimenter les plantes et limiter les pertes. Et en fait, j'ai un graphique, je ne l'ai pas là, mais on peut faire la même chose en remplaçant ici régulation biologique, en remplaçant couplage du carbone et l'azote par régulation biologique. Alors les régulations biologiques, je pense à tout ce qui va permettre de développer les ennemis naturels des cultures. Et vous auriez à peu près les mêmes choses. La bonne solution, le bon produit au bon endroit, au bon moment, avec la bonne dose. Et ici, les systèmes agricoles plus complexes. Système agricole, c'est pas la parcelle, mais c'est le système agricole dans les paysages, donc la dimension temporelle et spatiale est importante, qui vont permettre de réduire l'usage des pesticides. Donc quelques images emblématiques de la voie 1 que j'ai décrite sur l'éco-efficience, c'est l'agriculture de précision, l'alimentation des vaches, rien pas, c'est les robots aussi, parce qu'ils permettent de calibrer l'alimentation et autres. C'est aussi la génétique, bien sûr. Mais par contre, on ne change rien au niveau des paysages. C'est naturellement tout ce qui est recyclage. Et puis, bah, j'ai trouvé cette image-là extraordinaire. Ça s'appelle l'agroécologie, d'ailleurs, 2.0. C'est-à-dire que ben, on pilote toute l'agriculture à partir de sens plateforme. Ça s'appelle l'agroécologie. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de parler d'agroécologie, parce que c'est ça. Enfin, c'est partie du langage commun, mais il y a d'autres choses. Alors ça, je passe rapidement. Donc la deuxième voie, c'est un petit peu plus complexe, et c'est résumé ici. C'est à partir en fait, de travaux des vieux publications d'Altieri. L'idée fondamentale de ce schéma, c'est qu'on peut gérer à l'échelle de la parcelle et de la ferme la biodiversité à l'échelle du paysage pour créer une certaine hétérogénéité sur laquelle je reviendrai. Et ce qu'on appelle une diversité planifiée, c'est-à-dire c'est les animaux que j'élève, les races, mais c'est aussi le choix des cultures, la répartition spatiale. Mais ce qui est très important, c'est que ces deux types de diversité qui sont fortement planifiées et moyennement planifiées ici génèrent une diversité associée. Donc c'est dans l'espace, c'est dans le sol, qui va fournir ce qu'on appelle les services intrants, c'est-à-dire permettant d'accroître des régulations biologiques utiles à l'agriculture et la fertilité du sol. Et en retour, ça permet de maintenir ou d'accroître ce qu'on appelle des services de provision, donc les productions agricoles, mais aussi des services environnementaux qui ne sont pas forcément marchands à l'heure actuelle. Donc pour moi, une autre distinction importante est très importante parce que service écosystémique, c'est un peu galvaudé, c'est comme agroécologie. Mais il me semble que dans le champ de la grande vie, c'est important de distinguer les services à l'agriculture ou de l'agriculture. Ce qui est marqué ici, le fait que la biodiversité permet de fournir des services intrants, c'est utile à l'agriculteur. Ça peut être gagnant-gagnant. Et on a des témoignages d'agriculteurs qui nous disent, en pratiquant comme ça, on ne demande pas à être rémunéré parce qu'on est gagnant aussi. On réduit les intrants. Et donc, on produit autant en réduisant l'intrant, donc on est gagnant. Par contre, il y a d'autres services environnementaux que l'agriculture fournit à la société. Contribution à réduire les gaz à effet de serre, régulation des cycles de l'eau à l'échelle d'un paysage. Donc cela pourrait devenir, pourrait être rémunéré. Alors, je passe très vite, parce que le temps... Donc c'est simplement un petit schéma qui montre comment on peut raisonner la biodiversité dans l'espace, dans le temps, pardon, depuis le système de culture simple à des systèmes avec complexes, rotation lente, agroforesterie. Et puis dans l'espace, on va jouer sur la configuration et la composition. Alors on a fait un petit comparaison avec des collègues sur ce que j'appelle la voie 1, donc la WIC, EMA, ça veut dire Ecological Modernization of Agriculture, et puis la STRONG, basée sur la biodiversité. Regardez simplement ce qui est souligné en rouge. Il faut dire que dans cette voie-là, il y a une continuité avec le paradigme de l'agriculture productiviste. C'est basé sur la bioéconomie, le changement d'échelle. Alors ici, il y a un changement radical de paradigme. On est plutôt sur une économie de la diversité et une éco-économie. Je vais très très vite. Ce qui me semble aussi important, c'est que là, on a des technologies qui sont relativement génériques. Et le transfert se fait un peu top-down. Beaucoup de mes collègues critiquent le transfert top-down. Je ne suis pas d'accord. Il y a des technologies pour lesquelles c'est tout à fait adapté. Vous avez un robot de traite, il n'y a pas de... Par contre, une agriculture, c'est ça qui est fondamental, qui est basée sur la biodiversité, elle est forcément locale, puisque pour que les interactions biologiques s'expriment, ça dépend du contexte local, sol-climat. Et ça devient donc beaucoup plus compliqué. Et ça change fondamentalement, pour moi, la manière de faire de l'agronomie. Alors, maintenant, je me limite... Comme j'ai finalement la voie 1, je ne la critique pas, enfin, je peux la critiquer, à mon avis, elle a ses limites, pour moi, on va atteindre un plafond de verre, c'est-à-dire, dans le schéma que j'ai présenté une drive-walker, ça permet de résoudre pour partie les problèmes, c'est, c'est ce qui se passe dans le plan Ecofito 1 en France. Mais si on a une ambition supérieure, pour moi, il faut passer à cette voie 2. C'est ce que je vais détailler. Et donc, c'est là que ça se complique un petit peu, parce qu'il y a de la complexité qui demande des innovations de rupture. Il y a, comme j'aime le dire, la gestion doit être très dépendante du contexte, donc il faut agir au niveau local. Alors c'est problématique dans la recherche, parce que les résultats qui sont reconnus dans la recherche, c'est des résultats génériques. Alors que là, les pratiques vont être locales. Donc pour moi, le moyen de s'en sortir, c'est de dire que cette recherche, qui est pour moi ingénérique, c'est pas de l'ingénierie, eh bien c'est ça qui a une nouvelle forme de l'agronomie, la nouvelle agronomie. Je ne critique pas l'anciennement plus l'ingénierie peut coexister. Et donc, la généricité va être dans les méthodes, elle ne va pas être dans le résultat. Alors que dans l'agriculture, la voie 1, elle est dans le résultat, dans la technologie. puis, ça va demander éventuellement, je peux donner des exemples si j'ai le temps, aux acteurs de se coordonner pour gérer des ressources dans un paysage, voire de réviser le fonctionnement des chaînes agroalimentaires. Donc, pour essayer de construire un petit peu cette vision de la forte modération agroécologique, on s'appuie sur quatre cadres conceptuels. Les farming systems, où on gère des ressources à chaque de la ferme. Les systèmes socio-écologiques, où on gère des ressources dans un territoire. Et les systèmes socio-techniques, qui est un concept utile pour les filières. Et en fait, j'ai quatre exemples. Le dernier étant à l'intersection des trois cadres d'analyse. Le premier exemple, donc ça je connais assez bien parce que j'y ai beaucoup travaillé, c'est Plastin vs Leverstock System. Je passe vite. Pour moi, il y a trois challenges, des principes, c'est l'autonomie alimentaire, parce qu'on y reviendra dans la thèse en fin d'après-midi. Des légumineuses, on en parlait ce matin dans les prairies. Et puis surtout, quelque chose qui est un problème qui persiste, c'est une gestion adéquate du pâturage. Moi, je demande justement là sur. En Bretagne, donc en ouest de la France, la comparaison justement de ce système qui s'appelle CIBAM, qui est en des réseaux d'agriculture durable, avec un système conventionnel. Et très rapidement, vous voyez ce qui diffère. Si on regarde les résultats économiques, finalement, ils sont meilleurs dans ces résultats. Je ne détaille pas. Il y a des moyens où il y a plus de pâturage, moins de maïs, il y a des haies. La seule différence, c'est que le chargement est inférieur. En fait, les gens, quand on les discute, ils gagnent mieux leur vie. Il y a beaucoup moins de business. Ça, c'est absolument pas critiquable, tout ça. Simplement, il faut plus d'hectares pour produire un nombre de lait. Mais après, ça rentre dans des débats. Est-ce qu'il faut consommer autant de lait, tout ça, je ne veux pas en discuter maintenant. Voilà. Alors, les problèmes majeurs, qu'est-ce que c'est? C'est l'incomplétude des connaissances, des pratiques contre-intuitives pour la gestion du pâturage. Parce que j'ai l'habitude de dire, il y a 20 ans, le pâturage, c'est plus on pâture, plus on récolte. Je vais expliquer pourquoi. Et les pratiques situées. Et je vous invite, si vous êtes intéressé, à regarder une petite vidéo gratuite qui s'appelle « On est passé à l'herbe ». C'est pour aider, finalement, parce qu'il y a une prise de risque quand on adopte ces systèmes. Et c'est pour montrer comment on peut accompagner les éleveurs pour réduire cette prise de risque. Donc pour moi, en termes de recherche, en fait, quand on regarde ces agriculteurs un petit peu innovants, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent selon le principe scientifique de la gestion adaptative. Alors, dit très également, c'est les essais-erreurs. J'expérimente. Donc très très rapidement, c'est une espèce de boucle de progrès, on définit, on planifie, on évalue. Souvent, c'est des connaissances tacites, implicites et individuelles. Et il me semble que tout un enjeu pour la recherche, c'est d'essayer de capitaliser ces connaissances. C'est de produire finalement des dispositifs du type des bases de connaissances interactives, disponible sur un site internet, capable de construire des bases régionales qui peuvent être remobilisées par des visites, des analyses de groupe. Et donc on peut passer de tacite à l'explicite, de l'implicite au générique et de l'individuel au collectif. Et donc actuellement on a des travaux de recherche qui visent à équiper les acteurs selon ce principe. Donc on change de l'agronomie telle que je faisais il y a 20 ans, on produisait des modèles et puis les modèles étaient passés aux instituts techniques et aux conseils agricoles. Ça ne peut pas marcher pour les efforts d'agriculteurs. Parce que ce qui est constitutif de ces systèmes, c'est l'incertitude. Les relations entre la biodiversité et les services dont j'ai parlé, elles sont, je ne sais pas si c'était un graphique après, non, je ne vais pas là, elles sont finalement pas forcément excellentes. Aujourd'hui, elles ne le seront pas demain. Et que les relations entre les pratiques agricoles et la biodiversité, elles sont aussi très, très, très lâches, parce qu'elles sont très dépendantes du contexte. Et donc il y a besoin, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas besoin de recherche, mais il y a besoin d'une recherche qui permette d'enrichir des référentiels locaux. Quand même, j'en profite pour le dire avant de l'oublier, c'est que cette forme d'agriculture, elle est pour aujourd'hui, elle n'est pas pour demain. Parce que tous les travaux sur les biotechnologies, j'en ai pas l'intérêt. J'ai des collègues à Toulouse qui travaillent depuis 30 ans sur la fixation symbiotique pour le blé, comment transférer les gènes. Ça fait 30 ans. La semaine prochaine, je vais m'exposer avec eux. Je vous dis, c'est pour dans 10 ans. C'est très bien. Mais ça, c'est pour aujourd'hui. C'est pas demain, quoi. C'est ça qui est important. Bon, j'ai des collègues qui travaillent sur les cultures intermédiaires aussi. Donc là, ça je dirais que chose que Philippe connaît très bien, hein, sur les théories de Gilles, un petit peu sur les changements. Alors ce qu'il faut savoir, j'en profite pour dire, c'est que la voie de modernisation actuelle, elle est surtout sur ce qu'on appelle le régime dominant, donc sur la forme faible. C'est là qu'il y a du business, parce qu'il y a des intrants, Donc on les améliore, il y a de l'agriculture de précision, donc tout ça c'est très bien. Il y a des semences. Ici, dans cette forme d'agriculture, il y a bien aussi des intrants, mais il faut beaucoup de matières grises surtout. Et donc actuellement, le drame, je vois, au niveau européen, je ne sais pas, en tout cas en France, c'est que toutes les aides de l'État vont beaucoup au support de technologie, et ils vont trop peu finalement, à soutenir des efforts de financement de personnes aptes, des innovation brokers, en quelque sorte, à faire ces transferts. Alors, c'est un verrou majeur, ça, pour le développement de tel système. Bon, après, j'avais des illustrations, mais simplement, je vais très très vite, désolé, mais juste m'arrête, ici, c'était des associations entre du blé dur et une légumineuse, notamment le pois. Bon, on montre basiquement que quand on fait l'association, on a plus de choses, mais ces illustrations, c'était pour expliquer qu'il ne suffit pas de produire, après, il faut que ça puisse avoir un business quand même sur le marché, quoi. Et je ne sais plus si dans cet exemple-là ou un autre, on a assisté à un problème technologique, c'est-à-dire pour pouvoir trier les graines. Si c'est soit la deux cultures qu'on diffère, quand on diffère la récolte, c'est OK, soit sur les graines en même temps, pour pouvoir trier les graines. Il y a des fois, c'est possible par des processus physiques, par des grilles, tout simplement. Il y a des fois, c'est pas possible. Les graines des deux cultures ont la même taille. Et à ce moment-là, il y a des innovations technologiques là, intéressantes, par des trieurs optiques, par exemple. Donc, ils sont basés sur les densités de graines, c'est des réflectances. Et ça a été magique là, dans la coopérative avec qui on travaille. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est pas être contre les technologies, c'est les utiliser à bon escient. Et que certaines technologies peuvent être au service de l'agriculture. J'en profite aussi pour dire, comme des exemples emblématiques, je n'ai pas le temps de présenter sur l'agriculture de conservation, donc non travail du sol. Actuellement, un verrou technologique, c'est bien un des verrous, sans parler des mauvaises herbes, on pourra en parler, c'est des appareils de semis qui permettent de tout terrain. Et après ce que m'ont dit les gens, il y a des développements importants, mais c'est des machines très lourdes et très chères. Et qu'actuellement, il y a des innovations tout bêtes, au lieu d'avoir simplement deux disques qui permettent d'ouvrir le sillon avec le problème qui se ferme mal, c'est un disque avec une double inclinaison, donc il fend le sillon, même quand la terre est sèche, sans poids. C'est pas besoin, parce que c'est là, simplement là, le positionnement du disque. Et donc, comme ça n'ouvre pas le sillon largement, il n'y a pas besoin de se refermer, meilleure germination. Donc, c'est une innovation technologique toute bête. Mais c'est un artisan du Gers qui a trouvé ça, et ça ne vient pas des multinationales, des grandes firmes de fabricant d'aliments, de mécanique agricole. Bon, je vais passer très très vite pour ça. Là, j'ai un autre exemple, c'est. On parle beaucoup de complémentarité agriculture-élevage, parce que, vous imaginez, l'élevage fournit du fumier utile à la grande culture, je ne détaille pas. Le problème, c'est que c'est tout à fait contraire à ce qui se passe dans ce que j'ai montré dans ma première diapo, dans les premières, il y a spécialisation des régions et des systèmes. Et donc l'idée qui est un petit peu en vogue actuellement, qu'on essaie d'étudier, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire des complémentarités agriculture-élevage sur des petits territoires entre fermes spécialisées. Donc ça, c'est l'objet d'une thèse. Ça se passe dans le département de l'Aveyron. Alors là, on a un petit peu creusé le sujet. Souvent, quand on parle culture élevage, on parle les cultures, les plantes et les élevages. Et en fait, la petite innovation qu'on a faite, c'est de dire, on va mettre, ça va être les animaux, les cultures, en gros les cultures annuelles, et les prairies. Et ça change tout. Parce que ce qu'il faut qu'on voit, c'est les interactions. Et quand, avec ces trois cercles, on arrive à décrire de manière beaucoup plus fine le nombre des interactions potentielles ou existantes. Je m'explique. Quand on a affaire à des prairies temporaires de courte ou de moyenne durée, donc à table de rotation avec des cultures, bien c'est là qu'elles permettent de fournir des services écosystémiques du type intrant, ceux que j'ai présentés, à savoir l'introduction des cultures en rotation permet d'améliorer la fertilité physique et chimique du sol, sous réserve qu'il y ait des légumineuses, voire la dibiologie du sol. Et que si on ne distingue pas les cultures annuelles, des cultures. On se prive de la prise en compte de cette interaction. Bon, c'est un petit exemple. Simplement, j'en profite aussi pour dire que un des piliers de l'agriculture de conservation, ce sont les couverts intermédiaires, et que actuellement, il y a un champ des possibles qui devient considérable. C'est quelque chose qui se pratique souvent avec un nombre très limité d'espèces végétales, et que on peut envisager plusieurs fonctions de ces couverts intermédiaires, au-delà de capter du carbone en permanence, des roseaux, tout ça. Mais on peut les utiliser pour structurer le sol, on peut les utiliser pour améliorer la fertilité, pour réduire certains parasites. Donc les fonctions sont très diverses. ce n'est plus un bloc monolithique et qu'on a les outils actuellement de l'écologie fonctionnelle, j'en parlais ce matin, très rapidement, donc qui permettent de catégoriser un très grand nombre d'espèces pour identifier celles qui sont adaptées à telle ou telle fonction. Oui, juste la dernière partie, comme ça je perds du temps. On a essayé un petit peu d'aller un petit peu plus loin, parce que ce que j'ai présenté, on discute très sommairement, on étudie certaines facettes du problème, c'est très modeste ce que j'ai présenté, et on a une ambition beaucoup plus grande actuellement au travers d'un projet, c'est d'étudier sur un territoire simultanément les changements au niveau de ces trois systèmes. Donc on a un petit modèle conceptuel qui dit qu'il faut pouvoir, en gros, c'est que plutôt que de raisonner ici en disant il y a les acteurs autour, et puis là il y a les ressources, par exemple les ressources en eau, c'est l'état des ressources dans un paysage, ça peut être les barrages, les retenues d'eau, les flux, les débits, les technologies des entreprises de l'agroalimentaire, des coopératives, ici les ressources des fermes, et bien en fait on va mettre ces ressources à la base de cet état-être, on va étudier les interactions, et ce sont les systèmes d'acteurs qu'on va privilégier. C'est vite dit. Je prends un exemple qui n'est pas celui que je compte, mais autour de l'agroforesterie, donc qui revêt différentes formes. L'agroforesterie, c'est à la fois des arbres qu'on plante volontairement dans les parcelles, mais c'est aussi des haies, des bosquets. On sait que là, c'est des arbres qu'on plante volontairement dans des parcelles, c'est des expériences à Montpellier. Donc ces arbres sont utilisés pour produire des biens, du bois, de l'énergie, du biochar avec un H, et du BRF, bois raméal fragmenté, qui est utilisé comme amendement. Donc déjà, on observe une diversité de ces sources. Les usages de ces biens à des fins économiques. Ces arbres permettent de produire des services à l'agriculture par les ombrages qu'ils procurent, le fait qu'ils permettent d'avoir accès à des réservoirs non utilisables. J'ai des collègues qui étudient maintenant des arbres dans les prairies pour le pâturage des animaux, des vaches laitières, en les maintenant très basses. Donc vous voyez, c'est des illustrations concrètes de la biodiversité dont je parlais tout à l'heure, de la biodiversité planifiée. Et puis, naturellement, ce qui est connu, c'est que des services à la société, régulation des cycles de l'eau, stockage du carbone. Voilà. Et ce qu'on essaie de faire, là, actuellement, c'est l'image que je donne, c'est de faire en sorte que, sur un territoire, de coupler les cultures, en l'occurrence, à le voir comme produit, comme bien de consommation, où il y a un marché, avec la promotion de services écosystémiques, donc pour fournir des auxiliaires des cultures et recycler l'eau. Et ce qu'il faut savoir, tout ça, c'est pas antinomique avec les technologies, parce que sur un territoire, par exemple, récolter les branches des arbres pour faire du bois raméal fragmenté, ça suppose l'agriculteur ne peut pas le faire seul. Donc ça peut, en quelque sorte, s'industrialiser, en quelque sorte, sur un petit territoire, avec des coopératives pour de parcelles qui font d'agriculteurs qui font de l'agroforesterie, vers des agriculteurs qui font de la grande culture. Donc on peut imaginer, sur un territoire, le développement d'une très grande gamme de services, à partir du moment, ce qui suppose aussi quelque chose que je n'ai pas abordé, d'être capable d'évaluer ces services écosystémiques en termes financiers. Le contraire avec les éleveurs et agriculteurs, ils disent, je produis une grande culture, l'agriculteur dit, je produis de la luzerne, donc il va dire, je vais perdre économiquement, mais il va y avoir des arrière-effets en termes de fertilité, comment les évaluer. Juste pour terminer, j'ai deux diapositives où je montre comment, qu'est-ce que ça change pour la science agronomique. Je me laisse, je parle de l'agronomie, je ne parle pas d'économie et tout ça, mais c'est-à-dire que la science agronomique doit combiner différentes sciences. Donc il y a bien des sciences de l'agriculture, et là l'enjeu clé, c'est de fabriquer des supports pour l'apprentissage. Donc ça change par rapport moi à l'INRA. Bon, avant c'était tout modèle à l'INRA, on fait des modèles, et après, démerdez-vous, c'est l'expression, ça marche. Là il faut vraiment être sur le terrain, avoir la production scientifique, elle n'est plus que dans la connaissance des interactions, elle est aussi dans les supports qui permettent de trouver les bonnes interactions au niveau local. Et ça dépend du biologique, de l'écologie, de mon cycle humain. Rapidement, il y a naturellement des avancées à faire dans le champ de la science écologique. Et là, il y a quand même deux champs scientifiques qui sont l'écologie fonctionnelle au niveau des communautés, savoir comment fonctionnent les communautés, je pourrais en parler, on a parlé ce matin des prairies. Et puis l'écologie du paysage aussi, c'est des choses fondamentales. Avec la question des indicateurs. Et dernière diapo, je crois. Et ça suppose aussi des collaborations avec les partenaires. C'est dans le cadre du programme Agriculture et Élevage, c'est ce qu'on a expérimenté. Donc c'est pas simple, il y a de la science agronomique. Et puis on avait des débats, nous, à savoir quelles sciences on fait. Est-ce que c'est la science pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, le caractériser? Ou est-ce que c'est de la science où on est interventionniste?
moi je suis dans une équipe, vous me dites maintenant qu'on est un petit peu interventionniste. En gros, on accompagne, on cherche à accompagner les acteurs pour penser l'avenir. On ne dit pas ce qu'il faudrait en être, on produit des outils, alors ça peut être des cartes, des, on construit des scénarios, on a des supports sous forme de jeu pour aider à penser l'avenir. Voilà. Ce qui est différent de faire des catégories.
Et puis ça suppose aussi de développer des connaissances dans le champ des sciences de gestion et notamment des TIC, hein, des technologies d'information et de communication. Je pourrais en parler si j'ai le temps. Et c'est ce que Banner, je n'ai pas cité là, une Australienne appelle un nouveau champ scientifique qu'elle veut d'ailleurs promouvoir qui s'appelle les sciences de l'intégration de l'implémentation. Donc vers ça qu'on tend à aller. Et pour terminer, j'ai mis une petite image quand même qui est un petit peu inquiétante. Ici, AOC, c'est appellation d'origine contrôlée, français, voilà. Et puis ici, c'est une citation d'Edgar Morin, parce que plus le temps passe, plus je m'aperçois que, eh bien, c'est que dans nos recherches, il y a beaucoup d'implicites, beaucoup de sectoriels. C'est-à-dire, tout le monde se gargarise, je ne l'ai pas dit au début, mais en gros, on va dire, on va avoir 9 milliards d'habitants. L'autre jour, on prépare une intervention la semaine prochaine, il faut que tu dises qu'il y a 9 milliards d'habitants, qu'on travaille pour nourrir les 9 milliards d'habitants. Puis après, les gens descendent à la molécule, comme si magiquement ça allait servir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et eh bien, des enjeux, un des freins, un des verrous au niveau des chercheurs eux-mêmes, c'est bien la séparation dans des champs qui nous empêchent de voir les vrais problèmes. Je dis à l'INRA, on a beaucoup vu par exemple les relations, analyser les relations agriculture-environnement, mais avec l'administration santé humaine, bien qu'il y ait tous les personnels compétents, c'est un espace vacant. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a quand même 20 minutes, un quart d'heure pour des questions.
Que tu étais tendu pour nous autoriser à avoir des questions.
Ben oui, parce que je vais trop bien pour, mais...
Ben non, c'est très bien, très bien.
Mais non, je vais sauter, mais c'est pas grave, ça. C'est
mais en plus, on peut te faire revenir sur le diapo si vous souhaitez, dans le cadre de questions. Voilà, on vous écoute.
S'il y a des questions, des commentaires. Walid.
Franchement, il y a des idées qui sont super, c'est très important, effectivement. Les dernières phrases sont très fortes pour moi, parce que c'est très important de discuter de recherche au niveau du champ, cultiver, en prenant en compte ces interactions, etc. Avec tout ça, c'est suite à ça. Et effectivement, moi aussi, j'ai entendu des exposés, on parle des 9 milliards, ensuite, tout de suite, on est dans la molécule. Et... Bon, c'est de la science aussi, hein, il ne faut pas la dénigrer. Mais moi, la question que je me pose, c'est que toi, tu réponds à des gens qui disent bon, on a besoin quantitativement de nourrir la population de plus en plus grande, de plus en plus importante. Et il faut pratiquement doubler la production. Qu'est-ce que l'agroécologie peut faire vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que toi tu répondrais à ça?
Je n'ai pas de réponse simple. Je m'appuyais sur un exemple déjà qui n'est pas, pas très positif finalement. C'est l'exemple que j'ai présenté dans les systèmes laitiers sur l'agriculture durable par exemple. On montre finalement que les éleveurs gagnent mieux, enfin c'est pas moi qui le montre, les éleveurs gagnent mieux leur vie. Socialement ils sont mieux. Mais sur un hectare on produit moins. Et après, j'ai laissé ouvert, il y a des grands débats, mais je pense que ce n'est pas le lieu ici, est-ce qu'on doit consommer autant de produits animaux ou pas. Et l'autre chose très importante, c'est quels produits animaux. Parce que ces éleveurs-là, par rapport à la société, il y a deux choses très importantes. Le lait qu'ils produisent à l'herbe, il a un rapport oméga 6, oméga 3 de 2. Et le lait de leurs voisins, conventionnel, il est de 6. L'optimum 6 ou 8. L'optimum santé est de 4. Je peux vraiment argumenter, je connais parfaitement le sujet, je ne vais pas là-dessus. Et ça, tout est mélangé. Okay. Donc il pourrait même avoir une externalité négative, et c'est la prévention. Et après, en termes de biodiversité de pesticides, ce n'est pas comptabilisé. Donc c'est pour dire que ce n'est pas simple, déjà. L'autre exemple que je présente, que je n'ai pas présenté, c'est les réseaux d'agriculture de conservation, que mes collègues travaillent, ce n'est pas moi. Mais ils ont des performances agricoles qui sont égales ou supérieures au régime conventionnel. C'est pas très simple, hein, pour en débattre sur les pesticides, les herbicides. On peut rentrer dans le sujet, je connais un petit peu. Mais c'est pour dire que c'est pas antinomique. C'est pas du tout antinomique de produire plus. Et autre chose très importante que je le répète là, ça c'est maintenant. C'est pas dans un an ou dans 10 ans.
Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'on ne communique pas sous. Suffisamment sur ces études-là, je pense qu'avec moi, on peut faire autant, voire mieux sur.
Mais il faut savoir que c'est combattu. J'ai la chance, au niveau centre de Toulouse, d'être le responsable partenaire agricole. Donc je participe aux assemblées générales, j'y vais lundi d'ailleurs, de la chambre d'agriculture avec le préfet, donc l'administration. Et les réunions, c'est un combat pour dénoncer les lois européennes sur les directives. Pour dire qu'en Midi-Pyrénées, compte tenu du sol et du climat, elles sont inapplicables. Et donc des dérogations sont obtenues. Donc énormément d'énergie dépensée. Dans le même temps, il y a la même année, avec mes collègues, on travaille aujourd'hui, si je crois, avec un groupe d'agriculteurs qui font ce type d'agriculture de conservation. Et bien ces agriculteurs sont dénigrés par les chambres d'agriculture. Ils produisent autant, mais ils polluent moins. Finalement, c'est que je me suis aperçu, mais tout ça, c'est intéressant là. En fait, il faut dire que les politiques européennes ne sont pas forcément adaptées parce que c'est des politiques d'obligation. C'est-à-dire qu'on interdit, on dit des fenêtres, et le fait que ça soit moyen un peu partout pareil, c'est antinomique avec l'agroécologie. Mais en même temps, ces agriculteurs, bon, ils ont changé de paradigme. Ce que j'ai dit tout à l'heure est très important. Les agriculteurs, c'est caricatural, je m'excuse, conventionnel, donc c'est produire en limitant les impacts parce que la réglementation l'oblige. Les autres agriculteurs, quand on discute vraiment avec eux, c'est des gens qui sont très attentifs au sol, c'est produire en aggradant, en améliorant le fonctionnement de mon écosystème. Et donc intrinsèquement, ils sont rentrés dans des systèmes un peu plus complexes. Et ce que leur disent leurs voisins, ce qu'ils m'ont dit l'autre jour, pourquoi c'est combattu par les agriculteurs, la plupart des agriculteurs? Parce que si c'est vrai ce que vous faites, si c'est démontré que c'est vrai, ça va être généralisé, nous on ne veut pas. Et on n'a pas envie de changer de paradigme. Parce que c'est un changement, c'est pas qu'un changement de pratique, c'est une autre manière de voir le monde. C'est plus complexe aussi. Donc la complexité, ça peut être vu comme une... Enfin moi je peux le voir comme une richesse, comme quelque chose de stimulant qui responsabilise. Ou ça peut être vu comme un emmerdement.
Oui, Nicolas.
J'avais une question, c'est une réflexion que je me faisais. Je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais à vous entendre, vous dites que les grands défis de la science, outre la compréhension des processus, c'est la communication entre le monde scientifique et le monde de l'agriculture et la traduction du savoir scientifique, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai l'impression que quand je discute avec des agriculteurs belges, honnêtement, moi j'ai l'impression qu'ils sont tous de bonne foi et ils disent ok, ben moi il n'y a pas de problème pour changer mes pratiques. Mais par contre, par exemple, on parle des cultures associées ou ce genre de choses, ils disent tous mais donnez-moi la machine qui me permet de le faire. Mmh. Et donc en fait, moi j'ai l'impression que si je discute avec des agriculteurs, le défi il est essentiellement technologique.
C'est encore. Je n'ai pas l'expérience de ce domaine, je le connais parce que j'ai des collègues qui travaillent. Je crois honnêtement que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il est effectivement technologique parce que. Ce que j'ai pas eu le temps de montrer là, j'ai passé très très rapidement sur l'exemple des cultures associées. Il y a quelque chose d'embryonnaire dans la région auquel on a travaillé parce qu'une coopérative a décidé de s'atteler à la tâche. Mais, et donc il y a même des verrous technologiques du tri de graines qui ont été levés qui ont permis de changer d'ambition ou de diversifier les cultures qui pouvaient être associées. Mais ceci dit, mes collègues qui travaillent sur l'agronomie des cultures associées, on sait que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a, c'est quand même beaucoup plus complexe, ça demande plus d'observation, parce qu'il y a, à la fois pour que les bénéfices, donc pour que les interactions, les synergies entre espèces s'expriment, ça nécessite d'être plus pointu, c'est-à-dire plus attentif à la conduite du champ cultivé, puisqu'il y a des dérives qui peuvent très vite s'installer. On a des systèmes qui sont moins stables, donc qui peuvent être. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est pas contraire à ce que j'ai dit, savoir qu'il y a des synergies. Donc 1 plus 1 égale 3 en quelque sorte, mais pour 1 plus 1 égale 3, il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas forcément bien connues et qui demandent beaucoup d'observations. Et ce qui ressort des études locales que font mes collègues, mais aussi des études internationales dans le champ de la sociologie, mieux que moi, c'est que finalement, ces formes d'agriculture marchent bien parce qu'elles sont en réseau. C'est-à-dire que les agriculteurs communiquent énormément entre eux. Ils forment des espèces de clubs. Et ils sont à la recherche de systèmes pour capitaliser leur information. Souvent, il se faut des photos avec Internet, tout ça. Et donc on peut innover. Et quelque chose de très important, il vient de paraître, je le trouvais dans Nature, il y a eu l'an dernier un article d'Australien qui montre, c'est des agronomes je crois qu'ils l'ont fait, hein, qui montre comment les agriculteurs qui font les, ce qu'ils appellent les innovations incrémentales, qui sont plutôt dans le champ de la forme 1 par rapport à les innovations de rupture, bien, ils montrent finalement deux choses contradictoires. C'est que les agriculteurs qui font ces innovations de rupture, c'est bien, il y a, comme je l'ai dit, c'est un champ de rupture, il y a une densité de relations entre eux qui sont beaucoup plus fortes qu'en les conventionnels, mais la nature, la diversité des relations qu'ils ont, des instances, est beaucoup plus faible. Il y a les agriculteurs, entre guillemets, conventionnels, pour faire vite, ils ont un grand nombre de réseaux de relations, mais c'est plutôt de l'information qu'ils reçoivent passivement, alors que les autres sont actifs dans des petits réseaux. Donc, je vous invite à lire ça. Et donc, moi, le fondement de l'affaire, ce que je veux dire, c'est pas que la science doit communiquer, ça c'est une vision pour moi qui est adaptée à l'agriculture technologique. Mais là, c'est que la science doit s'impliquer, c'est différent. Et donc, quand on parle d'une, je crois dans le transparent précédent, de science, de l'intégration de l'implémentation, on parle bien de science, on ne parle pas de communication. Et moi, j'ai une anecdote, j'ai fait pendant 20 ans des modèles sur les prairies, voilà, avec les tuyaux, quoi, et puis les robinets. La France, il dit, ça serait bien que vous l'avez tué les robinets, qui est aussi toutes les règles de l'agriculteur qui commande les tuyaux et les robinets, c'est ce que je veux dire. Donc on a fait des choses faramineuses, c'était le cadre d'une thèse, et puis après, Montésard a une idée géniale, il était à Côte d'Aminard, c'est super. Il a dit, mais on s'aperçoit que pour renseigner la manière d'ouvrir les robinets, et de les fermer, plus d'azote, tout ça, les agriculteurs, ils savent pas quoi dire. Et bien, on les a mis en situation. On a reconstitué leur environnement quotidien, on l'a fait virtuellement avec des cartes et un ordinateur, et là spontanément ils ont reconfiguré leur système, ils ont dit pourquoi ils le faisaient. Donc c'est une manière de faire de l'agronomie complètement différente. Je regrette simplement que, c'est pas moi, c'est pas grave, mais que j'ai découvert ça il y a 4 ans, ben 5 ans maintenant, et pas il y a 30 ans.
Il y a une question de honneur aux invités, de Pierre Stassard qui nous vient d'Arlon, et puis une question de Marnik. Pierre.
Oui, donc d'abord juste un petit commentaire pour moi, la question. Sociotechnique, comme on dit, et un livre qui soit à la bibliothèque de la faculté de la Cour, je crois, qui s'appelle Sociologie des grandes cultures. Je vous invite à lire ce livre.
Non, tu as deux copies. Il y a une copie chez Pierre, une copie chez moi déjà.
Voilà. Alors, Michel, d'abord, je voulais te remercier pour ton exposé parce que je trouve qu'il a trois qualités. La première, c'est qu'il me semble fondé scientifiquement, ça devrait être le sujet pour moi. Ensuite, il me semble que cet exposé, il est pertinent d'un point de vue sociétal par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Et enfin, c'est sur quoi je veux insister, je trouve que tu te poses des questions à partir des questions de terrain, et tu essaies de développer des outils qui sont, à mon avis, des outils qui n'appartiennent plus tellement aux bio-ingénieurs, aux sociologues, ou à des économistes, mais qui essaient tout simplement, effectivement, d'adresser les questions que tu rencontres. Je trouve que c'est très important de te poser. Quand j'en viens à ma question, une des slides précédentes, tu dis qu'effectivement, dans l'accompagnement, dans la phase d'accompagnement des acteurs, il est important de construire des outils dans lesquels on peut incorporer leurs connaissances. Et je voudrais savoir si tu as une réflexion ou des expériences sur un outil qui est très à la mode aujourd'hui, qui sont les fameux services écosystémiques. Et est-ce que tu as connaissance ou est-ce que tu as fait des recherches sur l'incorporation des savoirs des acteurs dans les outils qu'on a développés au niveau de mobilisation, en termes d'études de services écosystémiques?
Pour moi, c'est un concept, le service écosystémique, c'est pas un outil. Hein.
Les outils qu'il y a derrière.
Oui, alors les outils, on en plein dedans, c'est la thèse qui est soutenue de Marc Morel, c'est-à-dire que si je résume l'est très sec, c'est un peu caricatural, une des voies qu'on a trouvées dans un réseau d'agriculture biologique sur un petit territoire, et puis des échanges entre producteurs de grandes cultures et éleveurs sur un grand territoire avec des échanges marchands, c'est d'incorporer des luzernes, c'est basique. La question s'est posée, la luzerne a un prix marchand. Les éleveurs, ils disent, finalement, mieux je continue à faire du maïs irrigué. Et donc, on dit, finalement, l'intérêt de la luzerne, c'est qu'elle permet d'améliorer la fertilité physique, chimique et biologique du sol. Et donc, c'est comment l'évaluer. Et donc là, on a fait des recherches participatives justement, par essai-erreur, par encadrement, pour essayer d'évaluer ces services écosystémiques qui sont fournis à l'agriculteur, hein, c'est pas la société là. Et donc, ce qu'on est en train de développer, le jeu virtuel là, qu'on a conçu avec mes collègues pour concevoir un système fourrager, on est en train de le développer penser les échanges de production entre exploitation. Et donc, c'est pas un jeu normatif, c'est les participants au jeu choisissent, on les met dans un environnement donné, dans l'environnement, on met à connaissance, ça peut être le climat, ça peut être l'économie, le contexte économique. Par le jeu, en déplaçant des pions hein, sur des cartes, donc ils expriment des préférences, ils énoncent des impossibilités, et par essai-erreur, ils se créent un consensus pour évaluer ce qui n'est pas évaluable dans la littérature, ou qu'il serait absurde d'évaluer de manière normative. Et on peut incorporer de la science par des modules, qui disent, ben, une luzerne, oui, avec un pressant en blé, je ne sais pas quoi, ça porte en du prédazote. Bon, ça ne donne pas des solutions, mais ça amplifie ou ça démultiplie la portée de discussion qu'il pourrait y avoir café du commerce.
La dernière question sera pour Mani. Une petite question.
Merci beaucoup pour l'exposé qui était très enrichissant et très clair et très belle introduction pour le symposium qu'on va organiser la semaine prochaine à l'occasion de l'IHI. J'ai une question par rapport. J'ai un peu l'impression que vous dites que finalement la transition c'est quand même une problématique assez complexe parce que il faut pouvoir tenir compte de toute cette complexité, il faut pouvoir l'évaluer. Mais est-ce qu'on ne peut pas simplement utiliser l'outil qui est quand même le plus efficace pour pouvoir faire bouger la société et les acteurs vers ce nouveau équilibre, c'est la marché en tant que tel. Donc vous avez dit qu'effectivement...
Le marché.
Donc, le service écosystémique, il n'y a pas de marché pour cela. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment internaliser cela dans le système et travailler là-dessus, d'utiliser notre argent pour pouvoir vraiment bouger les gens et pour arriver à tout. C'est quoi le développement qui ne permet pas de créer le marché pour les services écosystémiques?
Moi, je ne sais pas si je sais répondre. Alors, de toute façon, c'est une question pertinente. Je n'en ai pas parlé, mais je ne l'ai pas exclu non plus. Voilà. Parce que et à mon avis, en tout cas, si je m'adresse à la science agronomique française, elle pêche, elle a une limite du fait qu'elle a beaucoup été locale, finalement, sans chercher à fournir des argumentaires pour les politiques publiques. Donc actuellement, ça commence à venir. Mais j'en profite pour redire, parce que je ne sais pas si j'étais très clair, que pour moi, je ne sais pas si vous êtes économiste, non?
Non.
On est très conscients.
Agronome d'ingénie rurale.
Oui, parce que
il y a des économistes, mais ils se prennent le cas.
Il y a un petit peu marre des économistes qui parlent des services écosystémiques comme un tout. C'est contre-productif, parce qu'il y a des services qui sont, comme je répète, qui sont utiles à la société, donc il serait normal de rémunérer, et donc le voir par le marché, bien sûr. Il y a des services écosystémiques qui sont utiles à l'agriculture, qui supposent un changement de paradigme, comme je l'ai dit. Hein. Mais bien sûr, c'est des leviers très importants. Mais en même temps, on s'est dit, moi je ne dis pas du tout l'intérêt de ces recherches, mais dans notre groupe, on s'est centré sur les transformations locales. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que le marché, il faut qu'il convainque des lobbies à Bruxelles et tout ça, enfin, je veux dire, ou des coopératives. Donc je ne l'exclus pas du tout, mais voilà, ça vient en complément de tout ce que j'ai dit, bien sûr.
Voilà, on va arrêtez sur cette question-là. C'est une de mes. Mais on va encore te remercier pour. Non seulement classiquement pour la qualité de l'exposé, mais aussi pour la profondeur de ta réflexion. Parce que ça fait vraiment du bien de voir que tu puisses nous partager un long chemin que tu as fait.
C'est pas une excuse, mais j'ai une chance. Ah. J'ai été directeur d'une unité unique à l'INRA, où il y a un tiers d'économistes et de sociologues. Un tiers d'agronomes des plantes et un tiers de zootechniciens, de modélisateurs. Et ça m'a stimulé énormément. Donc c'est grâce à eux.
Voilà. Et donc, ça s'appelle UMR Agir. Si vous voulez faire des liens avec eux, c'est super chouette. En plus, c'est à Toulouse. Mais avant ça, vous ne pouvez pas aller à Agir si vous n'avez pas un peu mis à niveau vos connaissances dans le domaine. Donc vous pouvez commencer à 4h, Sud 01, avec la thèse de Teresa Lebac sur les systèmes laitiers et une illustration d'un des exemples de Michel sur les systèmes laitiers. Et la semaine prochaine, lundi, vous venez tous à la remise de diplôme à nos deux docteurs honoris causa, Olivier Chadwick et Miguel Latiri. Un symposium qui va retraverser une partie des choses du ici mardi. Et après, il y a plein d'autres activités, mais comme vous serez venus lundi et mardi, vous aurez l'info sur les activités suivantes. Voilà, merci pour votre présence. Merci à la suite. Ça vous plaît ?
Vous pouvez rester ici pour le cours de systématique.
Ah oui, je sais, mais on a un séminaire avec Michel.
Tout le monde en a.